Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour, merci d'être avec nous pour le débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Cette semaine, l'actualité africaine nous conduit en République centrafricaine, toujours à la recherche d'une solution aux violences dans lesquelles le pays est plongé depuis 2013. L'Union africaine réunit des groupes armés à Bouar, dans le nord-ouest du pays, pour les pousser à se mettre d'accord sur des revendications communes en vue des discussions avec le gouvernement. Mais en même temps, la Russie fait la même chose avec ses mouvements rebelles à Khartoum, au Soudan. Alors Moscou veut-il court-circuiter l'Union africaine ? Analyse dans ce débat. En République démocratique du Congo, la présidentielle du 23 décembre prochain se tiendra-t-elle sans Jean-Pierre Bemba ? La Commission électorale nationale indépendante CENI a retenu 19 candidatures sur les 25 enregistrées. Celle de M. Bemba, candidat du MLC, a été jugée irrecevable. La CENI dit fonder sa décision sur la condamnation de ce dernier par la Cour pénale internationale pour subornation de témoins. Mais proches et conseils de M. Bemba soutiennent que cet argument ne tient pas la route et accuse l'organe électoral de rouler pour le pouvoir. Emmerson Mnangagwa a officiellement prêté serment le 26 août dernier pour un mandat de 5 ans à la tête du Zimbabwe après la confirmation de son élection par la Cour constitutionnelle. L'opposition avait saisi l'institution judiciaire pour contester la victoire du candidat du parti au pouvoir, la ZANU-PF, pour fraude massive. Désormais président, que va-t-il ou que devrait-il faire pour apaiser le climat, pour décrisper l'atmosphère politique ? Nous en débattrons dans cette émission. Et notre grand témoin cette semaine est Maître Mathias Moruba, président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme. Bonjour Maître.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec vous, le journaliste Mike Mukebayi, fondateur du site d'information CNews, au téléphone depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Maître Barthélémy Moruba, vous êtes président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, je le disais tout à l'heure. Vous êtes avocat au barreau de la Centrafrique. Vous êtes également le conseiller légal à la Cour pénale internationale, la CPI, titulaire d'un diplôme de troisième cycle en droit fondamental de l'Université Paris-10-Nanterre. Vous êtes aussi chargé de cours à la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Bangui. En Centrafrique, votre pays, vous avez été candidat indépendant à la présidentielle de 2015 et vous aviez appelé à ce moment-là à voter l'actuel président, M. Touadéra. Mathias Moruba, disons également que vous êtes avocat des victimes dans l'affaire de Jean-Pierre Bemba Gombo en République démocratique du Congo. Maître, comment est-ce que vous avez réagi à l'acquittement de Jean-Pierre Bemba par la CPI en tant qu'avocat des victimes ?
C'était pour nous un choc. Pour l'ensemble des victimes d'abord, puisque, comme vous le savez, il y a eu 5229 victimes qui ont été acceptées à participer à la procédure devant la Cour pénale internationale dans l'affaire que propose le procureur et M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Toutes ces victimes aujourd'hui ne comprennent plus qu'est-ce qui se passe exactement dans la procédure pénale internationale, puisque avait été mis à disposition pour permettre de rendre une décision de condamnation. Et après la première décision qui avait été rendue par les juges de la Cour pénale internationale, la Chambre 2003, c'était une satisfaction et malheureusement, la Chambre d'appel a infirmé la décision des premiers juges. Et jusqu'à aujourd'hui, les victimes ne s'en remettent pas.
Mais on sait aussi que lorsqu'on va à un procès, on n'a pas forcément le verdict qu'on attend. On peut être condamné, on peut également être acquitté. C'était une option.
Oui. Ce n'est pas une option, mais nous sommes partis dans cette affaire parce que nous avons des éléments de preuve assez suffisants pour permettre que la Cour puisse rendre une décision.
Mais c'est le droit du tribunal de ne pas être convaincu par les preuves proposées par l'une ou l'autre partie, non ?
Bien sûr que oui. Aujourd'hui, la décision a été rendue. On ne peut plus l'attaquer. Mais vous savez, cette même juridiction qui a acquitté Jean-Pierre Bemba ne l'a pas acquitté en ce qui concerne la subordination des témoins.
Voilà, cette condamnation lui vaut justement de ne pas être retenu comme candidat à la présidentielle pour l'instant, une décision donc de la commission électorale. Mais maître, très rapidement, vous dites que vous êtes déçu par la décision de la Cour, mais en même temps, est-ce que vous comprenez qu'il y ait autant de critiques concernant la CPI, la Cour pénale internationale ? On entend régulièrement des
oui,
Africains...
De toute façon, c'est une décision qui a fait un tollé. Déjà au niveau de la Cour pénale internationale, si déjà à l'intérieur de la Cour il y a eu ce tollé-là, combien de fois nous qui sommes les justiciables, qui sommes appelés à nous présenter devant cette Cour. Toujours est-il qu'en tant qu'avocat, moi, je ne peux pas dire le contraire de ce que la Cour a dit, mais je vois le devoir de faire des observations plus ou moins objectives sur cette décision qui est vraiment critiquable.
D'accord. Et vous exprimez aussi la frustration des familles des victimes. On va parler de la République centrafricaine où en est le processus de paix et de réconciliation. L'Union africaine s'active et s'efforce depuis plusieurs mois de convaincre les leaders des quatre groupes armés actifs dans le pays de s'entendre sur des revendications consensuelles à présenter lors des négociations que l'UIA espère organiser entre ces mouvements armés et le gouvernement de Bangui. Mais seulement les Russes ont récemment fait irruption dans ce dossier de la quête de la paix sur lequel travaille l'UIA depuis longtemps et ils ont organisé ou ils organisent eux aussi leur rencontre avec ces mêmes groupes armés et hors du pays à Khartoum au Soudan. Maître Mathias Barthélémy Mourouba, quel commentaire vous inspire cette situation, ces discussions parallèles?
Écoutez, je suis pour un dialogue inclusif. Mais il faudrait que ce dialogue-là soit fondé sur une base légale. Alors, il y a beaucoup de sujets qui seront abordés dans ce dialogue, par-ci, par-là, mais nous redoutons quelque chose. Et comme je vous l'ai dit dans ma présentation, je défends les victimes de la République centrafricaine. Et aujourd'hui, le nombre de victimes que nous sommes en train d'enregistrer par rapport à la situation que connaît notre pays depuis 2012 à ce jour, ce nombre-là est 10 fois plus que ce que la Cour pénale internationale a connu. Alors, s'il y a des négociations quelque part, il faudrait que les choses soient claires. Il y a le droit des victimes. Il y a beaucoup de victimes qui ont subi des préjudices graves et nous disons que la justice doit faire son travail.
Maître, permettez-moi de vous interrompre. Là, je suppose que vous faites allusion à la demande d'amnistie formulée par les groupes rebelles. Vous souhaitez qu'il y ait que l'aspect judiciaire et l'aspect justice ne soient pas oubliés lors de ces négociations. Mais ma question était davantage de savoir comment appréciez-vous le fait qu'il y ait d'une part des discussions avec des groupes armés pilotés par l'Union africaine et qu'il y ait en face d'autres discussions similaires, cette fois gérées par les Russes.
Écoutez, vous savez, un adage africain dit que quand votre maison brûle, vous ne choisissez pas l'eau qui va venir pour éteindre le feu. Alors, moi, je pense que s'il y a des contributions par-ci, par-là, pour nous permettre de recouvrer totalement la paix dans notre pays, nous ne pouvons pas dire non. Mais nous mettons des garde-fous.
Est-ce que vous ne craignez pas que tout cela, finalement, crée une confusion dans la gestion d'un dossier complexe, la guerre en Centrafrique? Est-ce que cela ne peut pas plutôt créer une confusion?
Quelle confusion on va avoir dans une situation déjà trouble? Il n'y a pas de confusion. Aujourd'hui, nous disons qu'il y a des initiatives de l'Union africaine sur lesquelles nous pensons qu'il y a beaucoup de réserves à émettre. Et notamment en tant que président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, nous avons émis beaucoup d'analyses, sinon beaucoup de critiques sur cette initiative africaine.
Quelles sont ces critiques?
Et donc,
quelques grandes lignes de vos objections.
Déjà, on a demandé que les recommandations du dialogue de Bangui soient observées.
Vous voulez parler du forum de Bangui?
Le forum de Bangui, exactement.
Mais l'Union africaine dit justement piloter cette discussion en partant des conclusions du forum de Bangui.
Oui, mais en même temps, on dit que l'État doit garantir la sécurité, protéger les belligérants, ceux qui tiennent les armes, les mandataires des groupes armés. Ça signifie quoi? Si un juge d'instruction émet un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener, qu'est-ce qui va se passer?
Donc, si j'ai bien compris, votre grief envers l'Union africaine, c'est le fait qu'elle ne souhaite pas ou elle ne met pas assez d'accent sur l'aspect judiciaire dans ses discussions avec des groupes armés.
Mais il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Vous savez qu'il y a eu plusieurs conventions, par exemple, convention en matière d'interdiction de circulation des armes légères, munitions de guerre, etc. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on dit dans cette initiative que bon, l'État centrafricain doit observer l'embargo. De l'autre côté, les groupes armés sont autorisés à acheter des armes, à continuer à contrôler le terrain, etc. On va où? Autre chose, vous savez qu'en même temps, l'Union africaine avait pris des dispositions par rapport à la LRA.
L'armée de résistance.
La LRA n'est pas partie de la résistance africaine.
L'armée de résistance du seigneur de Joseph Kony, le mouvement rebelle ougandais.
Aujourd'hui, ils sont sur le terrain. Il y a
en Centrafrique.
Beaucoup de victimes de la LRA, mais l'Union africaine qui était là pour lutter hors du territoire national, ces éléments de la LRA, mais ils sont restés là et l'Union africaine est partie avec tous ces éléments de force à l'extérieur. Ils sont repartis chez eux. Ils ont abandonné les victimes de la LRA et tous les enfants qu'ils ont fait ici et les femmes victimes de violences sexuelles qui sont sur le terrain.
Donc, Maître Mathias Barthélémy Moruba, allez-y pour terminer.
Non, je dis que là aussi, c'est un problème. Donc, l'Union africaine, en même temps, a adopté des conventions, elle demande que ce soit respecté. Mais de l'autre côté, on favorise un certain nombre de groupes de personnes. Et je vous précise que même dans le cadre de la conférence de la région des Grands Lacs, une décision avait été prise pour mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives. Aujourd'hui, ces forces négatives contrôlent une partie du territoire, gèrent ce qu'ils veulent, et ils continuent à piller les ressources de la résistance africaine au bâtiment de tout le monde, et aucune disposition n'est prise afin de mettre un terme à ces agissements-là.
D'accord, maître, vous portez beaucoup d'accusations, mais en même temps, les discussions continuent.
Je ne porte pas d'accusations. Je fais un constat de ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui.
D'accord. Disons que vous avez beaucoup de griefs. On comprend que vous avez beaucoup de griefs contre l'Union africaine. Mais j'étais en train de dire que les discussions se poursuivent entre les groupes armés. Donc, il n'y a encore aucune feuille de route claire sortie de cette discussion. Je veux dire, il n'y a pas encore une liste de demandes consensuelles ou de revendications consensuelles présentées par l'Union africaine.
Non, l'Union africaine fait la facilitation entre les groupes armés et l'État centrafricain. Dans cette initiative-là, la feuille de route, l'Union africaine a proposé que l'organisation de la société civile soit écoutée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas droit de délibérative, mais ils sont des observateurs. Mais écoutez, c'est une question qui touche à l'intégrité de notre pays, qui touche aux intérêts du peuple centrafricain. On ne peut pas mettre de côté les organisations de la société civile disent qu'ils sont seulement
observateurs
dans un dialogue qui va opposer d'un côté l'État et de l'autre côté l'État représenté par le gouvernement et de l'autre côté des groupes armés.
Donc, maître Mathias, vous êtes en train... Est-ce que pour autant vous êtes en train de dire que l'Union africaine n'est pas en mesure de trouver une solution à la crise centrafricaine et que vous faites confiance peut-être davantage à la médiation russe ou à l'initiative russe?
Je ne dis pas que je fais confiance à l'initiative russe. Je dis que quand votre maison brûle, vous ne choisissez pas l'eau pour éteindre l'incendie.
D'accord. Donc vous dites que l'initiative russe est la
tous
bienvenue.
Ceux qui ont une bonne initiative, non, tous ceux qui ont une bonne initiative pour nous permettre d'avoir la paix dans notre pays, nous acceptons. Mais à la seule condition qu'on respecte les droits des autres.
D'accord, merci beaucoup,
et
maître.
Et notamment le droit des victimes.
Merci, maître Mourouba, merci beaucoup. Mike, voilà, sur ces discussions, à la fois, c'est ces discussions menées d'une part par l'Union africaine et de l'autre par la Russie en Centrafrique.
Ce que je crains, que l'intrusion de la Russie ne vienne compliquer la situation, d'autant qu'en Centrafrique, nous assistons à l'effondrement de l'État. La Russie est revenue en Syrie, et au détriment de l'influence occidentale. Là, elle tente de revenir en Afrique. Si elle choisit de le faire dans un pays où l'État est effondré, ça ne va pas aider. Et si la Russie est bien disposée à participer, à s'impliquer dans ces discussions, ce qui n'est pas sans intérêt quelque part, mais n'a qu'à le faire avec l'organisation régionale qui est impliquée, avec l'Union africaine qui est l'organisation.
Donc vous pensez que la Russie devait plutôt chercher à intégrer la médiation ou les discussions en cours conduites par l'Union africaine plutôt que d'organiser
son propre dialogue à Khartoum? Oui, s'il n'y a pas d'autres calculs, parce que vous comprenez déjà que l'Union africaine, en tant qu'organisation continentale, ne peut pas voir d'un bon œil qu'une puissance vienne lui siffler l'initiative.
Mais excusez-moi, Mike, maître Mathias Barthélemy Mourouba vient de dire que quand il y a l'incendie, on ne cherchait pas à savoir quelle est la couleur de l'eau qui peut réussir à éteindre l'incendie. Donc, comme quoi
c'est un adage africain qui s'applique dans des circonstances bien particulières. Vous dites quand l'eau, quand votre maison a pris feu. Ici, il s'agit d'un État qui s'est effondré. Toutes les initiatives doivent être contrôlées et doivent se compléter. Si elles ne se complètent pas, elles vont se chevaucher, elles ne vont pas permettre à la Centrafrique de sortir de cette crise.
Maître Mourouba, vous vouliez dire quelque chose, vous ne partagez pas cette...
Oui, je voudrais vraiment dire quelque chose. J'ai entendu Mike dire que l'État centrafricain est effondré. Alors, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Nous avons
l'effondrement de l'État. L'État n'existe pas en Centrafrique. C'est ce qui fait d'ailleurs que le groupe armé n'existe pas entier.
Nous sommes en République centrafricaine et nous vivons dans ce pays. Il y a eu des groupes rebelles, des groupes armés qui sont arrivés là par route et je ne sais pas quoi. Nous sommes actuellement en train de dire que malheureusement, dans cette crise justement de vivre, il y a eu la main de l'extérieur sur la place de la ville de la victime.
D'accord. Revenons aux discussions. Oui, revenons aux discussions, mais est-ce que vous pouvez répondre à l'observation de Mike qui dit que l'intervention russe peut plutôt compliquer la recherche de la solution? Décidément, on a perdu Mike, l'invité. Alors Mike, je vais rester avec vous pour vous dire que vous parliez de la position de l'Union africaine qui pourrait ne pas apprécier ce que certains appellent l'intrusion russe en Centrafrique. Mais un membre de l'Union africaine, du panel des facilitateurs de l'Union africaine, interrogé sur la question, a déclaré que la Russie est un partenaire de la Centrafrique et a le droit de prendre des informations nécessaires. Il y a l'initiative africaine en cours, mais il n'empêche que la Russie puisse prendre les informations nécessaires et ajoute que l'Union africaine est ouverte à ce genre d'initiative. Donc, cela signifie peut-être que l'Union africaine ne trouve aucun inconvénient à l'intervention russe dans la recherche de la paix en Centrafrique.
C'est une réponse purement diplomatique. Vous pouvez vous imaginer qu'après le revers que l'Occident a subi en Syrie, elle ne restera pas indifférente à l'intrusion de la Russie en Centrafrique. Donc la Centrafrique, au-delà de sa propre crise, va devenir le théâtre d'une confrontation entre la Russie et l'Occident. C'est ce qu'il y a à craindre. Et vous savez qu'à côté de la Centrafrique, il y a la République démocratique du Congo qui est déjà en crise et dont le chef de l'État a fait une ouverture vers la Russie pour chercher un appui là-bas. Donc ça risque de s'embraser dans la région.
Merci.
Si la Russie est bien disposée à aider les Centrafricains, qu'elle les fasse à travers l'Union africaine. C'est aussi simple que ça.
On va à présent marquer une pause et poursuivre le débat encore quelques minutes sur la Centrafrique.
Le débat Africa BBC.
À Avec notre grand témoin, Maître Mathias Barthélémy Mourouba, président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, OCDH. Mike Moukebaï, journaliste et fondateur du site d'information CNews, est en ligne de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Sur nos sites bbcafrique.com et africa1.com, vous pouvez écouter ou réécouter le débat, puis partager vos commentaires avec nous sur la page Facebook, facebook.com/débat-bbc-afrique. Alors, Maître Mathias Barthélémy Mourouba, on va encore parler quelques instants, quelques minutes de votre pays. Quelle est la position réelle du gouvernement centrafricain face à ces deux initiatives parallèles?
Écoutez, le chef de l'État centrafricain avait pris l'initiative de rencontrer lui-même au début de son élection les différents groupes armés. Et lui, il avait mis en priorité le dialogue inclusif au niveau de la République centrafricaine. Et il est resté dans cette logique. Et malheureusement, on a compris, de l'autre côté, nous, ou du côté du peuple, nous nous sommes rendus compte que pendant qu'on est en train de discuter avec les gens, les mêmes personnes avec qui les discussions se tiennent s'organisent pour continuer à commettre des crimes sur le terrain.
Vous parlez des groupes armés?
Et c'est à ce niveau que nous n'avons rien compris dans leur démarche.
Vous parlez des groupes armés?
Bien sûr. Vous savez très bien qu'ils ont signé plusieurs accords.
D'accord.
De paix.
Oui, mais pour le moment, ces deux initiatives parallèles sont en cours parce que Mike disait tout à l'heure qu'elles ne sauraient être complémentaires telles que la situation se présente. Mais quelle est la position du président Touadéra face à ces deux démarches qui sont entreprises? Parce qu'on dit le président très proche de Moscou. Et on a l'impression qu'il subit, ou tout au moins il laisse faire, et qu'il a même presque perdu la main pour ce qui est de la question de la recherche de la paix en Centrafrique.
Écoutez, moi je ne suis pas président, le président Touadéra, ça c'est une question qu'il faut lui poser directement, mais en tant que citoyen centrafricain, moi je pense simplement que si c'est un dialogue qui peut nous rapporter la paix, tant mieux. Mais si c'est un dialogue pour faire signer un accord qui sera gelé immédiatement après, ce n'est pas la peine.
D'accord. Mais quelles sont les avancées peut-être obtenues par les deux parties qui travaillent sur la question de paix en Centrafrique? Je veux dire, quelles sont les avancées déjà obtenues depuis que ces deux initiatives sont en cours par l'Union africaine et la Russie? Puisque vous, la société civile, est impliquée.
Comme tout le monde, que récemment, ils sont encore signés une déclaration dans laquelle ils ont manifesté leur volonté d'un retour à la paix. Ça, nous, tout le monde l'a vu, c'est écrit, c'est publié partout. Mais nous attendons les effets de ceinture d'accord de paix, etc. Parce que tant que nous ne pouvons pas nous déplacer librement du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, sur l'ensemble du territoire, nous pensons que une telle signature n'est encore des peaux de aux yeux.
Mais d'après vous, la société civile, quel est le message que vous adressez tant à l'Union africaine qu'à la Russie? Qu'est-ce qui doit, selon vous, être absolument préservé en cas de signature d'un éventuel accord entre groupes armés?
Écoutez, nous ne connaissons pas encore le contenu de l'accord qu'ils vont signer. Doit-on déjà envisager quelque chose? Parce que nous mettons seulement en garde les uns et les autres, parce qu'il ne faut pas qu'une signature puisse remettre en cause déjà l'État centrafricain, la République centrafricaine, deuxièmement...
C'est-à-dire l'unité du pays? Vous parlez de l'unité du pays?
C'est clair. Et ça, de toute façon, la République centrafricaine, il faudrait que les gens comprennent que la République centrafricaine est un et indivisible. C'est un État qui est indivisible et que les filles et les fils de ce pays-là doivent se sentir centrafricains et qu'il n'y ait pas une idée de partition que ce soit. Deuxièmement, toutes les victimes ont le droit de se faire entendre par la justice. Et c'est ceux sur qui pèse une présomption de culpabilité ou bien une infraction quelconque, il faudrait qu'ils comprennent qu'ils doivent répondre de leurs actes devant la justice centrafricaine. Et c'est cela. Je pense que si on met ça comme base de départ, les négociations peuvent se poursuivre. Et aussi, il y a d'autres mécanismes de paix qui existent, notamment la justice transitionnelle.
Ça aussi, c'est notre mécanisme. Et nous sommes en droit de dire que la possibilité est offerte à tout le monde de pouvoir se faire entendre.
D'accord. Merci beaucoup. On va marquer une pause.
Le débat Africa numéro 1 Paris, BBC Afrique.
Suite du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris, avec notre invité Mathias Moruba, président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, OCDH, en ligne de Bangui en Centrafrique. Le journaliste invité Mike Mukebayi, fondateur du site d'information CNews, au téléphone depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission, c'est soit bbcafrique.com ou africa1.com, et vous pouvez ensuite partagez vos commentaires sur la page Facebook. L'adresse, c'est facebook.com/débat-bbc-africa. La Cour constitutionnelle congolaise examine le recours introduit par les 6 candidats écartés de la présidentielle du 23 décembre prochain pour diverses raisons. Parmi les recalés, Jean-Pierre Bemba du MLC. La Cour, qui a commencé ses audiences vendredi, doit délibérer et ensuite renvoyer ses décisions à la commission électorale, qui va alors communiquer la liste définitive des candidats le 19 septembre. Mais d'abord, retour sur le rejet des 6 candidatures au scrutin présidentiel en RDC avec le correspondant de BBC Afrique à Kinshasa, Pauline Mouzalia.
Mbemba Ngombo Jean-Pierre, il est déclaré irrécevable suite à sa condamnation par la Cour pénale internationale à 1 an de prison pour subornation des témoins.
L'annonce a été faite par Jean-Pierre Kalamba, le porte-parole de la commission électorale. Sur les 25 candidatures déposées à la CENI, 6 ont été rejetées. À part celui de Jean-Pierre Bemba, la commission électorale a écarté le dossier de Sami Badibanga, Adolphe Mouzito et Antoine Gizenga, tous les 3 étant d'anciens premiers ministres du président Joseph Kabila. Juste avant l'annonce de la commission électorale, les principaux leaders de l'opposition ont lancé un appel à la mobilisation générale. La déclaration commune est lue par Martin Fayoulou.
L'opposition politique réunie ces jours exige que M. Kabila libère le processus électoral en arrêtant de donner des injonctions à la CENI.
Les 6 candidats écartés ont la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle dans les 48 heures. Pauline Mouzalia, Kinshasa, BBC Afrique.
Alors, Maître Mathias Barthélémy Moruba, les 6 recalés ont donc introduit des recours auprès de la Cour constitutionnelle qui les examine. En tant qu'avocat des victimes centrafricaines dans l'affaire de Jean-Pierre Bemba, est-ce que vous êtes peut-être content du rejet de son dossier par la commission électorale?
Non, ben je pense que je ne veux pas dire que je suis content du rejet. C'est la justice qui a rendu sa décision. C'est en toute souveraineté et en toute indépendance que les dossiers des candidats ont été examinés. Et si, malheureusement pour M. Jean-Pierre Bemba, son dossier n'a pas été retenu, ben je crois qu'il faut prendre acte de cela et voilà, c'est tout.
Quel est votre souhait? Souhaitez-vous qu'il soit ou non candidat à la présidentielle en RDC?
Mais ce n'est pas à moi de souhaiter quoi que ce soit. C'est au peuple congolais de dire qui est capable, à qui il veut confier sa confiance.
On n'en est pas encore à l'élection. Il faut déjà qu'il passe la phase de la candidature. J'ai dit, est-ce que vous souhaitez que candidature de M. Bemba soit acceptée ou non?
Écoutez, Jean-Pierre Bemba a été condamné. Moi, je suis un juriste, je suis un avocat. S'il a été condamné et que dans la loi congolaise, il est dit que celui qui est condamné ne peut pas être candidat, écoutez, moi, je ne suis pas peut-être plus royaliste que le roi.
Mike, voilà l'argument avancé par la CENI pour écarter le candidat du MLC, M. Jean-Pierre Bemba. Est-ce que selon vous, il est recevable?
La signature de Jean-Pierre Bemba est bel et bien recevable. La CENI obéit aux ordres du régime. Je vais y aller dans le détail. Ici, notre code pénal, il est dit de la bouche de tous les doctrinaires que le code pénal congolais est de stricte interprétation. Donc, chez nous, c'est clair, subornation n'est pas corruption. Subornation, c'est bien subornation et corruption est bien corruption, selon notre code pénal. Et dans la loi électorale, ce qui est mis en cause, c'est la corruption. Les candidats...
L'article 10 notamment.
D'inéligibilité en cas de corruption. On ne dit pas des subornations. Et la CENI, elle n'a pas compétence d'interpréter la loi. Elle est allée au-delà de ses compétences. Elle aurait dû constater que Bemba a été condamné pour subornation, encore que là aussi, il y a à redire.
Mais excusez-moi, pour le cas de subornation de témoins, s'il a été condamné pour subornation de témoins, cela signifie dans subornation qu'il y a eu peut-être des pratiques de corruption, que Bemba ou son entourage a utilisé la corruption pour acheter des témoins. C'est peut-être cela qui... je ne le dis pas, je dis subornation de témoins, on ne sait pas quelles pratiques ont été utilisées pour cette subornation de témoins.
Mais je réponds d'abord à cette question. Dans la subornation, on peut avoir eu recours à la corruption.
Ou la menace.
Tout comme à la menace. Ah, donc il faut encore déterminer. Mais je suis parti de la doctrine qui sous-tend notre code pénal ici, qu'elle est que notre code pénal est de stricte interprétation. Subornation, c'est subornation. On ne peut pas, dans un prétoire, dire subornation est assimilable à la corruption. Non. Chaque infraction est bien libellée et les éléments constitutifs de cette infraction sont repris dans le code pénal.
Donc pour vous, Mike, la commission électorale n'avait pas à rejeter de la candidature de M. Bemba?
Non, ce n'est même pas à rejeter. Elle aurait dû constater qu'ici, c'est subornation, ce n'est pas corruption. À la limite, envoyer l'affaire en contentieux au niveau de la Cour. C'est la Cour constitutionnelle qui peut, dans une certaine mesure, encore qu'elle est tenue par cette doctrine qui veut que notre code pénal est de stricte application. Mais regardez, allez-y plus loin pour voir que cette cour est un féodé, pardon, cette CENI est un féodé. Les candidats à Adolphe Mouzito, ancien Premier ministre, sa candidature a été validée, pourquoi? Pour conflit d'intérêts. Mais quand vous voyez son dossier de candidature, il y a là-dedans, d'abord, les couleurs de sa coalition, sa plateforme, il est UREP, l'autre qui est de son parti, de son ancien parti, c'est Antoine Gizenga, c'est clair que celui-là est pas lui. Donc deux coalitions clairement distinctes. Et Mouzito a pris la précaution de démissionner du Palou. Il l'a fait savoir par une lettre que le Palou a refusé de réceptionner. Et par la suite, il a envoyé la même lettre entre les mains d'un huissier de justice qui a déposé la lettre au siège du Palou. Et la notification de ces huissiers de justice est bien contenu dans le dossier de candidature de Mouzito à la CENI. Mais comment alors le président de la CENI ou la CENI parle des conflits d'intérêts? Voyez-vous qu'en fait, en réalité, c'est des décisions qui n'ont pas de fondement, tout autant que le cas de l'autre ancien Premier ministre Sami Badibanga. Il est exclu, pourquoi? Pour cause de double nationalité. Mais quand il a été nommé Premier ministre, il y a eu une clameur publique ici pour dire que non, il a la double nationalité, alors que chez nous, notre loi, la Constitution dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Il y a eu une mise en scène ici qui a été organisée par le ministre de la Justice et publiquement devant caméra, le ministre de la Justice a dit que Sami Badibanga a recouvré sa nationalité congolaise.
Donc voilà.
Et aujourd'hui, c'est tout le contraire que nous apprenons.
Merci. On n'a pas le temps d'examiner chacun les raisons du rejet de chacune de ces 6 candidatures ou chacun de ces 6 dossiers, mais je souhaite qu'on s'attarde sur le cas Bemba. Est-ce que son absence éventuelle, je veux dire au cas où la Cour constitutionnelle décidait finalement d'invalider la candidature de Bemba, est-ce que cela donne plus de chances à un possible consensus autour de la candidature unique dont parle l'opposition?
Non, la candidature, au sein où nous trouvons la candidature commune de l'opposition n'a plus beaucoup de chances d'aboutir. Beaucoup de querelles intestines ont fait qu'au jour d'aujourd'hui, les uns les autres se tirent dessus. Je l'ai dit en vertu des éléments à ma possession. Mais c'est vrai que si Bemba est invalidé et que Katumbi ne rentre pas, que peut-être ça va fédérer autour de Félix Etienne Tshisekedi ou je ne sais pas.
Parce que Bemba était un poids lourd qui pouvait légitimement prétendre peut-être à être le candidat unique.
Oui, il pouvait y prétendre, mais y prétendre signifie être capable de fédérer autour de soi. Parce que même si les autres sont exclus, admettons que nous n'ayons par exemple que Félix Etienne Tshisekedi comme candidat du côté de l'opposition, ceux qui sont exclus là sont porteurs de courant entier ici au pays. Donc il faudrait que
formellement, ils acceptent de soutenir la candidature unique. La candidature unique ne sera pas là du fait de la disqualification des autres.
Et mais justement, dans ces cas-là, Bemba pourrait appeler à voter pour un candidat et ce serait qui, selon vous?
À ce stade, je ne sais pas les dire. Regardez, par exemple, déjà en 2011, Bemba lui-même était encore en détention. Il y avait d'un côté Joseph Kabila et de l'autre côté deux ou trois candidats de l'opposition, notamment Étienne Tshisekedi. Mais Bemba avait préféré donner sa langue au chat. Puis il n'avait soutenu aucun candidat du côté de l'opposition.
D'accord.
C'est peut-être vers cette hypothèse-là qu'on irait.
Merci. Merci. Alors, Maître Barthélémy Moruba, je voudrais qu'on parle un peu de Jean-Pierre Bemba. Quelle stratégie, d'après vous, l'opposition peut peut-être mettre en place pour obtenir la validation de sa candidature ou peut-être accentuer la pression sur la Cour constitutionnelle?
Non, je pense qu'on ne peut pas mettre pression sur une Cour constitutionnelle. Ce qu'il faut apporter à la Cour constitutionnelle, ce sont des éléments de preuve qui peuvent de nature à mener à valider une candidature. Ce n'est pas chercher à faire la pression. Ne sera pas la meilleure solution.
Mais certains estiment que la justice entend souvent les bruits de la rue.
Les bruits de la rue ne sont pas toujours bien entendus au niveau des juridictions.
D'accord.
Et parce qu'à chaque fois que la politique simplement rentre au niveau de la justice, ben vous savez que la justice sort par la fenêtre. Et là, je pense qu'il faudrait que les choses soient claires. Il s'agit d'examen des tests qui sont fournis à l'appui d'un dossier de candidature. Et s'il y a quelque chose qui est de nature à mettre en jeu une personne, un candidat, je suis désolé, mais il faudrait que la personne trouve d'autres moyens pour pouvoir justifier qu'il remplit les conditions prévues par la loi.
Maître, est-ce que vous êtes du côté de ceux qui pensent que ou qui affirment que, ne serait-ce que pour des raisons morales, M. Bemba ne devait pas se présenter?
Écoutez, il ne s'agit pas de questions morales. Aujourd'hui, la morale, vous savez, ça appartient à chacun. Hein. C'est à lui de prendre la décision. Il a des avocats et il doit compter sur ces avocats-là, leur donner les éléments pour lui permettre de faire valider sa candidature par la Cour constitutionnelle. S'il n'y a pas d'autres éléments en dehors de ce que je suis en train d'entendre par mon cher Mike, je suis désolé, mais la Cour va confirmer cette décision.
Et Mike, on entend certains dire qu'en tant qu'ancien chef de guerre, même s'il a été acquitté, et cela ne le blanchit pas pour autant, que ne serait-ce que pour des raisons éthiques, M. Bemba n'aurait pas dû se présenter au scrutin présidentiel.
Mais quelle raison éthique à la place où la justice a tranché? Alors, mettons-nous d'accord.
Certains parlent de responsabilité morale en tant que chef de milice.
Oui, d'accord. Ou alors, nous devions nous en remettre à la CPI ou pas. Nous en étions tous remis à la CPI, au premier degré, elle a tranché contre Bemba. Et puis après, au second degré, elle s'est rattrapée, elle l'a acquittée. Nous constatons qu'elle l'a acquittée. S'il y en a qui pensent que... pour des raisons morales, il n'aurait pas dû se présenter. Libre à eux, c'est une position, mais que moi, je ne partage pas. Du moment qu'il est acquitté par la justice, il est supposé laver complètement. Donc, je ne partage pas cette opinion, mais libre à eux, ceux qui pensent ainsi. Mais je voulais juste ajouter une chose sur cette Cour constitutionnelle. J'ai entendu Maître Moruba parler de la justice, peut-être qu'il ne connaît pas la réalité congolaise. Elle n'est pas du tout indépendante, je donne un exemple. Il y a quelques mois, cette Cour a réhabilité un gouverneur de province qui avait été déchu de son fonction à la suite de l'initiative de l'Assemblée, un gouverneur de province ici. Elle l'a réhabilité, elle a instruit l'affaire et décidé de sa réhabilitation. Mais le ministre de l'Intérieur de l'époque a pensé le contraire et ce gouverneur-là n'a jamais été réhabilité. Donc elle n'est pas indépendante. On n'a pas grand-chose à attendre d'elle. Je crois que Bemba et les autres, s'ils s'en sont remis à cette Cour, c'est juste pour montrer qu'ils sont républicains et qu'ils vont y aller par des voies de droit jusqu'au
bout. D'accord, et qu'ils sont légalistes. Un mot, Mike, en 30 secondes, quel peut être l'impact d'une éventuelle invalidation de la candidature de Bemba? Est-ce que cela peut menacer la tenue du scrutin présidentiel le 23 décembre? puisque ses partisans menacent de perturber gravement le processus si Bemba était écarté.
Ce qui est vrai, c'est que ça va nous déchirer davantage. Ce consensus qui est déjà complètement fragilisé va encore être mis à mal, ça c'est vrai. Mais cela ne pourra pas empêcher la tenue des élections. Vous savez, ici chez nous, les élections, on les tient dans n'importe quelles conditions.
Merci.
Même si les urnes sont arrachées, sont détournées, il suffit qu'il y ait une inflation de 2 ou 3%, on vous dira qu'il y aura des élections.
D'accord, voilà, les urnes déchirées et que le débat continue sur la machine électorale. Merci.
Le débat, BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Vous êtes sur BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris, avec Maître Mathias Moruba, président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme en ligne de Bangui. Le journaliste invité cette semaine est Mike Mukibayi, fondateur du site d'information CNews en ligne depuis Kinshasa en RDC. Et pour écouter ou réécouter le débat, cliquez sur bbcafrique.com ou africa1.com et partagez vos réactions avec nous sur la page Facebook, facebook.com/débat. BBC Africa, comment le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, élu dans la controverse, va-t-il s'y prendre pour réduire la fracture entre son camp et celui de son principal adversaire à la présidentielle du 30 juillet dernier? Le pays est dans la tourmente après la crise qui a suivi l'annonce de sa victoire face à Nelson Chamisa, candidat du MDC, principal parti d'opposition débouté par la Cour constitutionnelle qui a confirmé la victoire de M. Mnangagwa. Maître, victoire confirmée, certes, mais peut-on dire que le pays est tiré d'affaire au regard de l'ampleur ou du niveau des violences post-électorales? Il y a eu quand même 6 morts.
Oui, écoutez, j'ai suivi les informations par rapport à ce qui se passe dans ce beau pays, la suite des élections. C'est vrai qu'il y a eu des violences post-électorales, mais j'ai suivi hier soir que le président Emmerson a mis en place un comité chargé de vérifier de tout ce qui s'est passé.
D'enquêter.
Et chercher à
les violences post-électorales.
Pour rétablir les responsabilités des uns des autres. Mm. Je crois que c'est déjà un pas, parce qu'au moins que ceux qui ont initié cette violence post-électorale doivent répondre de leurs actes, je crois que c'est clair.
Donc vous pensez que c'est une décision positive qui peut contribuer à décrisper l'atmosphère?
Mais écoutez, de toute façon, si le président ne le fait pas, désolé, mais la Cour pénale internationale va s'intéresser à la question. Parce que vous savez, tout ce qui est violence post-électorale relève de la compétence de la Cour pénale internationale. Et je crois qu'il vaut mieux prendre le devant et ça nous éviterait d'avoir d'autres procédures longues et puis coûteuses.
Mike, Maître Moruba parlait de cette décision concernant la justice sur les violences post-électorales. Quelle autre décision forte le président zimbabwéen peut-il prendre selon vous pour réduire les risques de clivage, parce que sa courte victoire montre quand même que presque la moitié de la population n'est pas avec lui.
Cette première initiative n'est pas à mettre sur le compte de la consolidation de la paix. Elle participe plutôt à la justice du vainqueur, et la justice du vainqueur n'aide pas. Ça, c'est la justice du vainqueur, celui qui a gagné. Ça sera sa commission et qui ne va trouver des coupables que dans le camp de l'opposition. La décision, à mon point de vue, la plus fondamentale au jour d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir des espaces de liberté, de laisser l'opposition s'exprimer et d'espérer avoir des élections transparentes à la prochaine occasion. Je n'encouragerai pas ceux qui parlent de gouvernement d'union nationale. Il faut laisser Mnangagwa décider, diriger et qu'il y ait une opposition qui fait aussi son travail librement. La question en Afrique, c'est cela. Comme ça que nous
le président Mugabe l'avait essayé avec Morgan Tsvangirai de défunte mémoire lorsqu'il était chef du MDC après
la crise post-électorale. Sont par essence faibles. C'est comme ça que j'ai dit, il ne faut pas aller dans la voie d'un gouvernement national, plutôt ouvrir les espaces de liberté et laisser l'opposition faire son travail et attendre le prochain scrutin.
Maître Moruba n'est pas d'accord?
Non, au contraire, je partage cet avis. Je pense qu'il va falloir que le peuple africain, les Africains comprennent
que le jeu de la démocratie, c'est aussi ça, c'est cette règle-là qui doit être observée par les uns et les autres.
Celui qui gagne gouverne, et voilà, et on attend
son tour. Le gouvernement a toute responsabilité et que l'opposition joue aussi son rôle, mais pleinement.
Responsable et comptable, pleinement aussi.
Oui.
Voilà.
Oui, de toute façon, à l'issue de toute façon, celui qui gouverne va rendre compte.
Voilà.
La responsabilité.
Mike, le président Mnangagwa confirmé jeudi dans leur fonction, ces deux vice-présidents, Constantino Chiwenga, qui a dirigé le putsch contre Mugabe, et Kembo Muradi, qui l'avait nommé en novembre 2017, après le putsch, c'est dire que le président Mnangagwa est dans la continuité.
Mais il est dans la continuité, il va continuer avec ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, c'est vraiment clair. Et je crois qu'il en a bien besoin pour stabiliser le pouvoir, il ne fait que commencer. Mais j'étais en train de faire une petite digression pour dire que le problème en Afrique, et c'est cela pourquoi nos processus démocratiques et électoraux n'avancent pas, c'est que ceux qui sont au pouvoir utilisent les moyens de l'État contre les oppositions. C'est cela tout le problème. Il faudra un jour réfléchir à comment avoir des processus démocratiques qui ne souffrent pas des pesanteurs de ceux qui sont au pouvoir. C'est une profonde réflexion, il faut la commencer, mais pour l'appliquer, ça sera tout un problème, il faut quand même commencer.
D'accord, et parlant de continuité, vous dites que cela va lui permettre d'asseoir son pouvoir. Certains s'inquiètent du maintien de Constantino Chiwenga, par exemple, qui est un général à retraite et qui a été au cœur du coup d'État qui a contraint Robert Mugabe à quitter le pouvoir.
Mais s'il y a des inquiétudes à nourrir, il faut commencer à les nourrir sous la tête d'abord de Mnangagwa lui-même. Lui, il a été la main répressive du régime pendant longtemps. Mais par la force des choses, il est là au jour d'aujourd'hui. Je ne pense pas que celui qui est mis en cause là porte plus de responsabilité que Mnangagwa.
D'accord.
C'est un régime répressif qui a travaillé avec Mugabe. Mais puisqu'il faut avancer, au jour d'aujourd'hui, il y a eu un pas qui a été accompli des élections, encourageant les Zimbabwéens à retrouver la paix, à aller vers la voie de la réconciliation, pour que demain nous ayons des élections plus transparentes et vous pouvez être sûr que Nelson Kamisa remportera ces élections-là, si elles sont transparentes.
D'accord, c'est dans 5 ans en tout cas. Maître, une conclusion, voilà, la continuité donc, le maintien de ces deux vice-présidents, continuité, cela donne-t-il un bon ou mauvais signal à ses adversaires par rapport à la question de l'apaisement et de la réconciliation?
Écoutez, moi je pense au comment. Je pense que on va laisser le président Emerson continuer à jouer son rôle avec qui il veut, et c'est sûr, il sera comptable à la fin de sa session. L'autre chose que je voudrais ajouter, c'est que le peuple zimbabwéen doit assurer ce qu'on appelle le contrôle citoyen de la démocratie et de liberté. Et ça, c'est à ce niveau-là que le travail doit continuer à se faire. Tous ceux qui ont participé directement ou indirectement à cette élection-là doivent aussi continuer à jouer leur rôle.
La veille citoyenne.
Pour permettre aux citoyens zimbabwéens de comprendre qu'ils ont un pays et que chacun a des droits et des obligations et que la liberté est pour tout le monde, mais cette liberté doit s'effectuer dans le cadre légal. Le contrôle citoyen est fondamental pour le reste du mandat qui est à courir.
Merci beaucoup. Et c'est le moment d'écouter les questions et messages de nos auditeurs sur la page Facebook de l'émission recueillie et présentée par Thierry Richard Mbouekidina.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour à nos chers invités, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Centrafrique, Mamadi Sogona Keita aimerait connaître les raisons de la présence russe dans le pays. Pour Charles Bazema, Moscou est la bienvenue en Centrafrique car pour notre fidèle internaute de Ouagadougou, la solution à cette crise passe par le désarmement des groupes armés. Et la Russie est la seule puissance occidentale selon lui à même de le faire, contrairement à la France. Et Aya Ramadan de se demander quand est-ce que les puissances occidentales se seront-elles de pimenter l'Afrique ? Sur la République démocratique du Congo, pour Diarra Kamnoum, le rejet de la candidature d'un challenger sérieux au régime est monnaie courante sur le continent. Pour notre auditeur de Soninkeni au Mali, Karim Wade est l'un des exemples à mentionner ici. Et enfin au Zimbabwe, Mephis Kiti appelle le président élu à œuvrer pour la défense des intérêts de la classe pauvre et conseille à Nelson Chamisa de continuer à travailler. Merci à Kultumiso, Valentin Lamboni et Samba Sangare qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux depuis notre page Facebook à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, portez-vous bien.
Portez-vous bien également, Thierry Richambwe Kidinaï. Merci pour ces messages. Maître, rapidement, avec cette question de cet auditeur, Mamadi Keita, il veut savoir les raisons de la présence russe dans le pays. Est-ce que vous-même, vous avez une réponse?
Écoutez, la République centrafricaine est indépendante depuis plus de 50 ans maintenant. Elle est en droit de traiter avec n'importe quel pays du monde. Aujourd'hui, c'est la Russie, hier c'était la France, aujourd'hui c'est la Russie, il y a la Chine, les États-Unis. Est-ce qu'on a quelque chose à reprocher à cela? Nous sommes dans un monde où la coopération internationale doit se faire à tous les niveaux. Je crois qu'il n'y a pas de problème pour ça.
Et la France, comment perçoit-elle cette présence russe?
Je pense qu'il faut poser la question à la France. La France était là depuis 1958. Nous sommes l'un des derniers pays au monde. Je ne sais pas, la France va nous donner des explications.
Vous pensez que la France n'a pas beaucoup aidé la Centrafrique?
Mais écoutez, si vous voulez organiser un autre débat un jour, peut-être que je vous donnerai mon avis sur la question. Non, c'est que sûr, c'est qu'aujourd'hui, depuis 58 ans, la République centrafricaine n'a pas eu la possibilité de se développer comme les autres pays. Là, la France va nous dire pourquoi.
Est-ce que vous avez des informations sur l'enquête ouverte sur la mort des trois journalistes russes? La société civile a-t-elle mené ses propres enquêtes?
Nous cherchons toujours à savoir la vérité dans cette affaire. Une enquête est encore en cours. En tant qu'avocat, je ne peux pas autoriser à me prononcer sur ça.
Merci à notre invité, Maître Mathias Moruba, président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, OCDH. Merci à vous, Mike Mukebayi, journaliste et fondateur du site d'information CNews en République démocratique du Congo. Réalisation, Abdou Diop, chargé de production, Thierry Richard Mbouekidina et Sandra Bassabam. Pour écouter ou réécouter le débat, c'est sur bbcafrique.com ou africa1.com. Vous pouvez commenter l'émission après l'avoir écouté sur la page Facebook facebook.com/débat BBC Africa. Et avant de nous séparer, j'ai une excellente nouvelle à partager avec vous. Francis Laloupo sera avec nous la semaine prochaine et comme moi, je sais que vous avez hâte de le retrouver. Bon week-end, au revoir.